On a reçu des nouvelles de Julien, comme je disais, qui est toujours à Metz. Qui prépare son mémoire pour le DEA et qui viendra le soutenir à Nice en septembre. Et il demande si l'Église pourra le recevoir pendant quelques temps en septembre. On a plusieurs personnes qui doivent être de passage en septembre. On a Hélène. On a aussi Dani et Tammy Beatty. Ils doivent aller à Marseille pour une réunion de leur groupe de mission. Et on espère qu'ils espèrent aussi qu'ils pourront prendre le temps de venir nous voir. Donc, dépendant de la date, peut-être on aura à vous demander si vous pouvez accueillir Julien pendant un temps. Si les dates sont bonnes, on pourra l'héberger nous-mêmes. Voilà, et on attend toujours des nouvelles de Paul et de Steve. C'est par la foi qu'on pense qu'ils sont arrivés. Steve doit nous envoyer un email une fois qu'il aura trouvé une façon de joindre le computer. Et Paul, j'ai essayé plusieurs fois d'appeler sur son portable, mais il l'a pas branché apparemment. Il doit être bien à la plage. Plus vite qu'on ne croit. Et bien cette année, Sébastien et Tonio vont changer d'établissement scolaire. Sébastien est un peu nerveux parce qu'il sait que la discipline est beaucoup plus stricte au collège où il va aller. Avant, il savait qu'il suffisait que de demander à papa un petit mot pour arriver un peu en retard ou manquer un après-midi. Mais là, il sait que c'est plus sérieux. Et parlant de lettres d'excuses pour la maîtresse, la lettre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un peu une lettre d'excuse à la maîtresse. Aujourd'hui, on va étudier la lettre de Paul à Philémon. C'est une des petites épîtres de la Bible. Elle se trouve page 245 dans la Bible verte ou bleue. Il y a 5 livres qui n'ont qu'un chapitre dans la Bible. 5 livres. 5 books. 5 livres. Qui n'ont qu'un seul chapitre dans la Bible. Et c'est l'un d'eux. C'est si court en fait qu'on pourrait plutôt parler au lieu d'une lettre, on pourrait dire que c'est une carte postale. Alors qui était ce Philémon? C'était en fait un chrétien. qui était devenu chrétien par l'entremise de Paul. C'était un homme assez riche qui habitait dans l'Asie mineure, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et qui vivait dans la ville de Colosse. Là où Paul a envoyé une lettre, la lettre aux Colossiens. Et un de ses esclaves, à ce riche propriétaire, Philémon, l'avait volé et s'était échappé. Son nom, c'était Onésime. Il était parti à, pour ne pas se faire repérer, pour ne pas se faire retrouver, il était parti à, au Paris de l'époque. C'est-à-dire qu'il était arrivé à Rome. Là, il pouvait se fondre dans la foule. Mais c'était sans compter avec le Seigneur. Parce que le Seigneur l'a conduit à rencontrer notre célèbre apôtre Paul. Paul était alors en résidence surveillée à Rome. Il était enchaîné à des gardes, mais il avait quand même une certaine liberté. Et on ne sait pas, peut-être que Onésime s'est retrouvé dans la même prison. Ou peut-être que des amis lui ont dit, tiens, viens écouter cet homme. Toujours est-il qu'au contact de Paul, Onésime est devenu chrétien lui aussi. Vous vous rappelez les dominos qui... Boum, 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 boum. Eh bien, Onésime, ça a été aussi un domino qui est tombé avec Paul. Et il s'était rendu très utile à Paul. Il l'aidait dans sa vie en prison. Mais Paul et Onésime ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas garder Onésime près de Paul. Parce qu'il appartenait par la loi à Philémon, à Colosse. Et donc Philémon, plutôt Onésime a été convaincu qu'il devait rentrer voir son maître. Le problème, c'est qu'un esclave qui avait fui ainsi de son maître risquait la peine de mort. Le minimum, c'est qu'on lui inscrive au fer rouge la lettre F sur le front. They would brand him. Et ça voulait dire que c'était un fugitif. Et qu'il fallait s'en méfier. Et donc là, Paul va écrire un petit mot pour Onésime, qu'il va pouvoir remettre à Philémon avant que Philémon ne se fâche. Et Paul va demander à Philémon de pardonner, non seulement de pardonner Onésime, mais de le recevoir comme un frère en Christ. Lisons ensemble l'épître de Paul à Philémon, page 245. Je commence. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Paul commence par exprimer une prière de remerciement vis-à-vis de Philémon. Il lui montre d'abord son appréciation. On peut dire qu'en fait, Paul utilise beaucoup de tact avec Philémon. Mais souvent l'idée de tact, c'est un peu de manipuler les gens, c'est un peu d'être hypocrite. Et là, c'est le tact inspiré par l'Esprit Saint. Et on sait que Paul ne ment pas. Ce qu'il dit, il le pense vraiment. Ça vient du cœur. On sait que Paul était prisonnier à Rome, qu'il avait été emprisonné par les Romains. Mais s'il dit qu'il est prisonnier pour le Christ Jésus, ou même dans certaines traductions qu'il est prisonnier de Christ Jésus. Ça, c'est une différence importante. Il n'est pas qu'il est prisonnier des Romains, il dit qu'il est prisonnier de Christ. Parce qu'en fait, Paul reconnaît que Dieu est toujours sur le trône. Et que tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est ce que Dieu permet. C'est Dieu qui contrôle toutes nos circonstances. Et Paul considère à juste titre que s'il est en prison, c'est parce que Dieu le veut en prison. Peut-être vous vous dites, mais c'est un peu dommage que Paul soit en prison. Mais on sait que Paul, on dirait aujourd'hui, c'était un sacré battant.
Go-getter.
Il était toujours en mouvement, toujours en train de voyager, toujours en train de parler, toujours en train de prêcher. Et en fait, si le Seigneur n'avait pas un peu arrêté, on peut être à peu près sûr qu'il n'aurait jamais pris le temps d'écrire 13 épîtres. Il nous manquerait la moitié du Nouveau Testament. On n'aurait pas l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Thessaloniciens. On serait vraiment embêté. Et donc, Paul sait bien que ces Romains ne sont que des instruments dans la main de Dieu. Et ça, c'est une perspective qui libère. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez prisonnier de vos circonstances. Peut-être que vous êtes dans un travail où vous dites, ah, si seulement je pouvais être plus loin. Si je pouvais être à Djibouti avec Steve et Suzy. Si je pouvais être à Seattle. Il n'y a pas de hasard. Dieu contrôle les choses. Et plutôt que de résister, c'est tellement mieux d'aller avec lui. Quelle perspective libératrice. Il dit qu'il est avec Timothée. On sait que Timothée a été avec Paul à Rome. On sait qu'aussi, à la fin de cette petite carte postale, il parle aussi de ses amis qui sont avec lui, d'Épaphras, de Marc, d'Aristarque, de Mas, d'Emas, Luc. Ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve dans la lettre aux Colossiens. Et on pense qu'en fait, ces deux lettres, la lettre à Philémon et la lettre aux Colossiens, ont été rapportées ensemble par Onésime. Par Onésime et Aristarque. Ça aussi, c'est une chose importante, c'est que Paul était toujours entouré de frères et de sœurs. Et s'il n'était pas avec lui, il pensait à eux, il priait pour eux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Steve et Susie et Captain sont à Djibouti, mais ils sont encore dans nos cœurs. Paul et Laetitia sont aussi dans nos cœurs. Et ça, c'est la communion des saints, c'est la communion fraternelle qui va durer pour l'éternité. Il dit qu'en fait, Philémon, c'est leur compagnon d'œuvre. C'est le mot duquel on tire aujourd'hui un mot que vous avez peut-être entendu, qu'on appelle le mot synergie. Et la synergie, c'est un terme dont on parle en business, dans les affaires, pour dire que l'union fait la force, en fait. Par exemple, s'il y a deux compagnies comme Renault et Peugeot, le chiffre affaire, qu'elles forment une seule compagnie, alors la synergie, ça veut dire que le chiffre d'affaires de cette nouvelle compagnie, Peugeot, va être plus grand que la somme des chiffres d'affaires des deux compagnies prises séparément. Je ne vais pas faire un cours d'économie. Et ça nous rappelle qu'en fait, lorsque nous sommes deux chrétiens ensemble, sont plus forts que deux chrétiens séparés. Et même un seul chrétien avec Christ est une majorité. Il parle de Appia, notre sœur, et de Archippe. Appia, on pense que c'était la femme de Philémon qui s'occupait donc de la maison, qui devait savoir ce qui se passait avec cette esclave. Et Archippe, on pense que c'était leur fils. Et lui était devenu un serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'il prêchait la nouvelle, la bonne nouvelle, autour de lui. Et là, on voit en fait une famille. On a dit que c'était une famille aisée, puisqu'ils avaient des esclaves. On verra qu'après, ils pouvaient offrir des logements aux voyageurs. C'est une famille riche, mais on voit qu'une famille riche peut être une famille chrétienne engagée. Ce n'est pas la richesse qui est un obstacle à notre relation avec Dieu. C'est notre attitude vis-à-vis de cette richesse. Si nous faisons de cette richesse un dieu, elle devient vraiment une idole qui nous empêche d'aller à Dieu. Paul, dans 1 Timothée 6, 10, a dit que c'était l'amour de l'argent qui était la racine de tous les maux. Je lis, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Il y a beaucoup de personnes riches, chrétiennes, qui peuvent être une grande bénédiction pour le reste des frères et des sœurs. Une autre remarque, c'est qu'il parle de la... Il écrit aussi à l'église qui est dans ta maison. Et en fait, comme on se réunit ici, dans un appartement, c'est très biblique. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pas avant le deuxième siècle de notre ère qu'on a commencé à construire des grandes églises, des bâtiments. Et ça, c'était à l'image des temples païens. Il suffit de voir par exemple l'église de la Madeleine. C'est construit d'après un temple païen grec. Parce que l'église, ce ne sont pas les pierres, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'assemblée des croyants. Et s'il y a des pierres dans l'église, ça doit être des pierres vivantes. Soyez donc des pierres vivantes. Que la grâce et la paix, dit-il, vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix, c'était la salutation typique chez Paul. Il dit qu'il rend continuellement grâce à son Dieu quand il pense à Philémon. Paul était un homme de prière. Et si nous voulons vraiment compter pour le Seigneur, alors nous devons devenir ou être des femmes et des hommes de prière. Parce que la prière n'est pas limitée. Le service pratique est limité. Si je suis ici, je ne peux pas aider Steve et Suzy à Djibouti. Par contre, je peux prier pour eux. Et lorsqu'on voit les épîtres de Paul, on voit qu'il priait sans arrêt pour tout le monde. Il y a des fois peut-être où l'esprit va, ou plutôt où l'ennemi va nous faire penser à quelqu'un d'un esprit critique. On va dire, tiens, un tel était là, mais il arrive en retard. Une bonne stratégie, c'est de dire, ah, un tel, je vais prier pour elle. Prions les uns pour les autres. Et si à chaque fois que l'ennemi essaie de nous faire critiquer quelqu'un, on prie pour la personne, il va vite arrêter. Paul était un merveilleux exemple de ça. Il priait, aille remercier le Seigneur pour Philémon. Il avait une grande liste de noms, d'églises, de sujets de prière. Nous aussi, on va voir ça. Parce qu'il a entendu parler de l'amour et de la foi dont Philémon a fait preuve envers le Seigneur, Jésus et tous les saints, c'est-à-dire tous les croyants qui les entourent. Et lui dit qu'en fait il a eu beaucoup de joie et de consolation parce qu'il entend que par son amour les frères et les sœurs sont tranquillisés. En fait, l'expression littéralement veut dire que les entrailles des saints ont été rafraîchies. Parce qu'à l'époque, on considérait que le siège des émotions, c'était pas notre tête, notre cœur, notre intelligence, mais c'était vraiment notre estomac. Même aujourd'hui, on dit quelqu'un qui a du cœur au ventre pour dire quelqu'un qui est courageux. En anglais, c'est du gutsy. Et quand on reçoit une émotion très forte, on la reçoit à l'estomac. On dit j'ai été estomaqué. Mais ça, c'est pour dire que l'action, la vie de Philémon faisait tellement de bien autour de lui. Notre vie aussi devrait rafraîchir les saints. Une bonne façon de se mettre dans cet état d'esprit, c'est de dire, tiens, aujourd'hui, qui est-ce que je peux encourager? Quand on pense comme ça, on ne pense pas à soi-même. Et on va bénir quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était l'appréciation de Paul pour Philémon. Maintenant, on en arrive vraiment à la requête, au sujet de la lettre. Verset 8, je lis. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour. Tel que je suis, moi Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, autour de moi et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou qu'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu le dois, que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur tranquille, lise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Il dit, j'aime mieux te prier Verset 8, il commence en disant « Je pourrais te prescrire, c'est-à-dire je pourrais te commander de faire cette chose. » Mais verset 9, il dit qu'il aime mieux le prier au nom de l'amour. C'est vrai que Paul pourrait utiliser de son autorité apostolique. Il dit, c'est moi le patron, tu vas recevoir Onésime, et si tu ne le reçois pas, tu seras puni. Mais ça, ce serait vraiment exercer son autorité comme les chefs des païens l'exercent sur les païens. Paul préfère faire appel à la motivation de l'amour. Parce qu'elle est bien supérieure à la motivation de la peur. Paul cherche à convaincre par le cœur. C'est Luther, en fait, qui faisait remarquer que Paul renonce à son droit d'autorité. Il renonce à son droit d'imposer sa décision pour Philémon. Quand il renonce à son droit, il est en fait un parce que le droit de Philémon, c'était de punir, même de crucifier son esclave fugitif. Mais Paul lui dit, je renonce à mon droit, pourquoi tu renonces pas à ton droit aussi? Et on écoutait Paul parce qu'il ne disait pas « faites ce que je dis », mais parce qu'il disait « faites ce que je fais ». Et ça aussi, ça doit être notre règle de vie. On ne peut pas demander aux autres de faire ce que nous-mêmes nous ne faisons pas. Et cette humilité de Paul, ça rappelle le proverbe qui dit qu'une réponse douce va calmer la fureur. Le mot prier, c'est le même mot que le mot qui est souvent utilisé pour désigner le Saint-Esprit qui vient aux côtés d'une personne. Prier. Le même action que le Saint-Esprit qui vient auprès d'une personne pour la guider. To come alongside. C'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. La peur a une place. On dit que la peur, c'est le commencement de la sagesse. La peur de Dieu. Mais finalement, c'est l'amour qui va nous convaincre. Paul se considère comme un vieillard. On peut dire qu'il avait âgé prématurément avec toutes les épreuves qu'il avait subies. Et là, il a une très belle expression pour désigner qu'il a amené son Onésime à Christ. Il dit qu'il l'a engendré dans les chaînes. La phrase 10 est intéressante parce qu'il dit, le verset 10, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. » C'est un peu comme si il met le nom le plus tard possible. Parce qu'il a peur que dès que Philémon va entendre ce nom, il va exploser. Donc il définit bien ce qui est arrivé, que maintenant Onésime est un chrétien, que c'est Paul qui l'a conduit à Christ. Le mot Onésime, ça veut dire utile en fait en grec. Et en fait, Paul va faire un jeu de mots. Verset 11. Paul était friand des jeux de mots. Les Français aiment bien les jeux de mots, les Américains beaucoup moins. Je crois que les Grecs aimaient bien ça. Encore une fois, tout ce qui est bon pour parler de Christ est valable. Quand il dit autrefois, verset 13, il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile, à toi comme à moi. C'est un peu comme s'il disait utile avec un U majuscule, t'étais inutile, maintenant utile va nous être utile à tous les deux. Was before unuseful. Yeah. Et là encore, on voit comment il veut convaincre Philémon sans lui forcer la main. Il lui dit, je n'ai rien, verset 14, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Et ça, c'est en fait une réflexion du caractère de Dieu. Dieu veut avoir une relation d'amour avec les hommes. Et on ne peut pas imposer par la force une relation d'amour. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait liberté de rejeter l'amour. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont eu la liberté de renoncer, de rejeter Dieu, de lui désobéir. Nous gardons toujours notre libre arbitre. Et Jésus frappe à la porte de notre cœur. Jamais il ne la défonce. Et donc, ce principe que Dieu utilise, nous devons nous-mêmes l'appliquer. Par exemple, dans le domaine des finances, des dons qu'on peut faire à l'Église ou aux saints, aux croyants. Paul donnait une prescription dans 2 Corinthiens 9, 7. Prescription? Oui. Que chacun donne comme il l'a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Et en grec, littéralement, c'est quelqu'un qui donne avec hilarité. Quelqu'un qui est si heureux de bouleverser les gens qui vont recevoir qu'il en rigole. Et je prie pour vous que ça vous soit déjà arrivé de faire un cadeau. Oh, on est tellement content, on dit, ils vont être tellement étonnés ou tellement bénis, ça donne de la joie. Parce que Jésus l'a dit, il est plus béni de donner que de recevoir. Verset 15. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité. C'est vrai. Pardon. Là aussi, Paul prend la perspective de Dieu. Il dit, toi tu croyais qu'il s'était échappé, que tu l'avais perdu, que c'était une perte d'argent, de revenus. Mais Dieu voulait le sauver en l'amenant à Rome auprès de Paul. Et maintenant qu'il est chrétien, il a la vie éternelle. Comme toi, vous allez être ensemble pour l'éternité. Il lui demande de le recevoir non plus, verset 16, comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. L'histoire d'esclavage, on a du mal à s'y référer nous-mêmes. Pourtant, à l'époque, dans l'Empire romain, près de la moitié des gens étaient des esclaves. Sur 120 millions de personnes, il y avait 60 millions d'esclaves. Pratiquement la population de la France, que des esclaves. La population d'aujourd'hui, je veux dire. Mais ce n'était pas seulement des gens qui étaient des serviteurs, c'était des gens qui n'avaient aucun droit légal. Le propriétaire pouvait décider de les mettre à mort s'il le désirait, il avait le droit de le faire. Et là, Paul demande à ce riche chrétien de considérer maintenant Onésime non plus comme un esclave sur qui il a tous les droits, mais comme un frère en Christ. Et ça montre la puissance de transformation de l'Évangile. Si nous sommes en Christ, Paul nous dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On chante ce chant qui souvent encourage, on peut repartir à zéro avec Christ. Paul dit dans l'Épître aux Colossiens qu'en Christ il n'y a, dans 3:11, qu'en Christ il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous.
In Colossians 3:11, Paul tells us there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave and freeman, but Christ is all and in all.
Et si dans votre cœur vous avez quelque chose contre le racisme, contre les préjugés, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Et la solution, elle n'est pas dans de passer des lois, passe quoi, pas passe quoi. La solution, elle est dans Christ, dans mon cœur. C'est d'ailleurs remarquable qu'en fait, Paul ne parle pas officiellement contre l'esclavage. Pourquoi ? À l'époque, en fait, l'esclavage, c'était un des fondements, malheureusement, de la société. Et attaquer l'esclavage aurait provoqué un désastre. Les maîtres se seraient probablement auraient eu une réaction brutale contre les esclaves. On aurait pris l'Église pour un mouvement politique. Alors qu'on sait que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. L'homme, les politiques, les penseurs, les philosophes essayent de créer des grands mouvements pour changer l'homme, la société. Il y en a qui ont apparemment été assez loin, comme Karl Marx. Mais le problème de la société, il n'est pas dans l'organisation de la société. Le problème, il est dans le cœur de chaque homme. Et de changer quelques cœurs est plus important que de changer des milliers d'organisations sociales. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, les dominos, des cœurs changés. Vont finir par changer la société. C'est le développement du christianisme qui a fait que l'esclavage a disparu dans la société de l'époque, quelques siècles plus tard. On a vu l'esclavage réapparaître en Amérique. C'est en Angleterre avec un chrétien qui s'appelait Wilberforce qui a mis l'esclavage hors la loi que ça a commencé à changer. L'a rendu illégal en Angleterre. Dieu veut toucher la société en touchant les cœurs. La société, elle voudrait changer les cœurs en changeant la société. Et on voit bien en résultat des choses politiques que ça ne marche pas. Finalement, à partir du verset 17, Paul fait une promesse à Philémon. Il lui dit que si Onésime lui a fait quelque tort, verset 18, ou s'il te doit de l'argent, mets ça sur mon compte, c'est moi qui te paierai. Et pour dire que c'est bien officiel, il dit que c'est Paul lui-même qui écrit la carte postale. Puis là, Paul, il ne peut pas s'empêcher, verset 10, de faire une petite, 19, pardon, de faire une petite remarque. Il lui dit, mets ça sur ton compte, sur mon compte, je te payerai. Mais d'abord, n'oublie pas qu'en fait, tu me dois ta vie éternelle.
Mark this to my account, but then remember that you owe me your spiritual life, your eternal life as well.
On peut dire beaucoup de choses en disant je ne veux pas te dire que je, ce n'est pas pour dire que tu me dois ta vie, mais je te l'ai dit. Il l'encourage, il dit à l'avance qu'il sait qu'il va lui obéir. Il lui dit même qu'il sait qu'il va faire au-delà de ce qu'il lui demande. En fait, on pense que c'est une façon sous-entendue de demander que Philémon libère Onésime. Cette façon encourageante de voir, de croire que Philémon va être touché. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Les hommes souvent croient le pire au sujet de ceux qui les entourent. Mais Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous dit que l'amour de Dieu, l'amour agapé, croit tout, il espère tout. It hopes all things. L'amour fait confiance.
Love trust.
Alors que la peur paralyse et inquiète, on ne fait pas confiance aux gens si on est dominé par la peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on pense que Philémon a vraiment répondu à l'intercession de Paul. Parce que 50 ans plus tard, un des plus grands martyrs chrétiens qui s'appelait Ignace a été amené à Antioche pour y être exécuté. Et de là, il écrivait, avant d'être exécuté, il a écrit beaucoup de lettres aux églises. En particulier à l'église d'Éphèse. Et là, il leur vantait les mérites de leur merveilleux pasteur, de leur merveilleux responsable. Un certain, et ce pasteur s'appelait Onésime. Et Ignace faisait le même jeu de mots sur son nom. Il est Onésime de nom, et il est Onésime de nature. Autrement dit, utile dans son nom et utile dans sa nature. Et puis, verset 22, Paul prend congé de son ami en disant, en même temps, prépare-moi un logement. Comme Julien. Car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons de l'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Petite histoire intéressante. Mais je crois que si le Saint-Esprit l'a inclus dans la Bible, c'est parce qu'il y a plus derrière cette histoire. Un des principes, quand on lit la Bible, c'est de chercher à voir Jésus dans le texte. Luther a dit que nous sommes tous des onésimes. Cette histoire, c'est une petite parabole, en fait. Philémon, c'est Dieu le Père. Et Paul, c'est Jésus. Cette histoire, c'est une merveilleuse image de l'œuvre de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme Paul intercède pour Onésime, la Bible nous explique que Jésus intercède pour nous auprès du Père. Dans Romains 8, Paul disait « Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. »
33:34. Yes, rather who was raised to the right hand of God, who also intercedes for us.
Dans Hébreux 7:25, l'auteur nous disait que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur.
In Hebrews 7:25, it says that he is able to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them.
Cette histoire illustre d'une belle façon que Jésus prend le châtiment à notre place. On a vu ce verset, s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. On sait que Jésus, en mourant sur la croix, a pris tous nos péchés à son compte. Tout ce que nous devions payer au Père, qui méritait le châtiment, il a dit, mettez-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. Il n'avait pas connu le péché, mais il est devenu péché pour nous. Jésus prend notre place dans la mort et il nous donne sa place dans la vie. Jésus dit au Père, si donc tu me tiens pour un ami, reçois cet homme comme moi-même. C'est toujours important, c'est un pasteur, Jevon Maggie, qui disait que c'est important de personnaliser les passages de la Bible. Et quand je m'approche de Dieu pour mon salut, c'est comme je peux entendre Jésus qui dit au Père, si Pierre, ou Josiane, ou Nancy, ou Monique, ou Laurence, t'as fait quelque tort, ou si Pierre te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et sans doute que à ce moment-là, Dieu le Père dit, mais ce Pierre, je ne veux pas le recevoir au ciel, c'est pas acceptable, il n'est pas acceptable. Et Jésus répond, mais si je suis vraiment ton fils, si tu me comptes comme ton fils, alors reçois Pierre comme moi-même. Et c'est ça que d'être en Christ.
And
Être accepté dans le bien-aimé. Paul disait, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et c'est vrai que Luther avait raison. Nous sommes tous des Onésimes. Onésime a été condamné par la loi romaine. Mais il a été libéré par la grâce. Et nous aussi, la loi de Dieu nous condamne. Parce que nous sommes tous pécheurs devant l'Éternel. Les 10 commandements nous le prouvent si besoin était. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par son amour. Parce que Jésus a payé le prix. Quelle belle carte postale. Prions. Seigneur, merci pour Onésime et Philémon et Paul. Merci Seigneur que surtout cela nous rende plus vivant à nos cœurs la merveilleuse grâce de ton amour. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, merci de ce que tu as mis à ton compte toutes nos dettes. Tous nos péchés. Merci à toi, Dieu le Père, parce que tu nous reçois comme ton Fils. Ta parole nous dit que tu ne te rappelles plus nos péchés. Si nous sommes en Christ. Et je crois que le Seigneur est encore en train de frapper à la porte de votre cœur. Et sa parole nous dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui peut-être vous avez envie d'ouvrir la porte de votre cœur. Dieu ne va pas la bousculer, ne va pas la défoncer. Mais c'est par son amour qu'il veut vous convaincre. Et pendant que nous prions, si vous désirez donner votre cœur à Christ, je vous demanderai de lever la main. Réalisant que c'est la chose la plus importante que vous puissiez faire dans toute votre vie. Le Seigneur est à l'œuvre par son Esprit Saint. Il continue de frapper. N'attendez pas trop longtemps. On ne sait jamais ce que demain peut amener. Et pour ceux qui ont déjà ouvert leur cœur,